Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus, je suis accompagné ce soir de BenoFX. Bonsoir BenoFX.
Salut Cyrus, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Jeux du Mois.
Et dans ces Jeux du Mois, nous allons nous arrêter quelque temps sur High School pour ma part, et de ton côté BenoFX.
Eh ben ça va être Riders of the North Sea, qu'on va bientôt avoir en français sous le nom de Pillard des Mers du Nord.
Pillard de la mer du Nord, si je dis pas de bêtises même.
Peut-être.
C'est vrai que ça fait un peu bizarre en fait.
Pillard de la mer du Nord. Ouais,
j'ai tendance à vouloir dire Pillard des mers du Nord, mais c'est la mer du Nord. Bon.
C'est Pillard de la mer du Nord. Bah, j'ai dit une connerie. Ouais. J'ai plus l'habitude du nom anglais en fait, parce que. Et puis il est pas sorti encore officiellement en français, je crois. Il était à Essen, mais
il arrive
mi-octobre dans les boutiques.
C'est ça, il y avait quelques exemplaires à Essen. Ils ont eu du mal d'ailleurs à les obtenir, leurs exemplaires. Il y a eu quelques péripéties apparemment.
Ouais, ils sont arrivés, ils ont perdu en route ou je sais pas quoi.
Le samedi ou le dimanche, je sais plus. Alors, on va attaquer, on commence par High School.
Bah, comme tu veux, dis-moi.
Allez, on commence par High School. Alors, High School, c'est un jeu de Brian Gomez qui est édité chez Brain Games. Alors, Brain Games, ça veut dire les jeux cérébraux, ou je sais pas, les jeux du cerveau en anglais, si on traduit littéralement. Alors, si vous attendez un jeu de réflexion en rapport avec le nom de l'éditeur, là, vous allez tout de suite très déçu, parce que c'est pas du tout ce genre de jeu auquel on a affaire. High School, c'est un jeu de pichenette, sauf que, à l'inverse de beaucoup de jeux de pichenette où on va pousser des palets, ou assimiler. Là, en fait, on a des espèces de culbuto. Alors, la thématique, c'est des pingouins, d'où le nom. Oui, les culbuto, tu sais, c'est
les petits bonhommes avec le curon, là, ça.
C'est ça, voilà. Et qui reviennent toujours debout.
D'accord.
Voilà, exactement.
Et c'est ça que tu piches.
Et c'est ça qu'on pitch. Donc là, tout de suite, on sent que ça va pas forcément pitcher bien droit, quoi. Déjà, avec un palais, c'est pas toujours évident. Mais alors, avec un petit culbuto, ça peut être assez folklorique. Alors, le principe du jeu, donc c'est un jeu qui va jouer de 2 à 4 joueurs. Et en fait, on va. Alors, ce qui est marrant aussi, alors là, le premier aspect matériel qui est rigolo, c'est ces fameux culbuto. Et il y a un deuxième aspect matériel qui est assez rigolo, c'est que la boîte, en fait, c'est un système de boîte gigogne. Donc, en fait, à l'intérieur de la boîte, il y a d'autres boîtes. Et avec ces boîtes, on va pouvoir construire une. En fait, c'est une école, thématiquement. Construire une école, enfin bref, du coup, ça va faire un plateau avec. Faut imaginer 4 boîtes qu'on va mettre les unes à côté des autres en carré, pour former un carré fermé. Et il y a une petite boîte qui vient au milieu compléter ce carré.
D'accord, donc avec les bords, ça fait une sorte de décor.
Voilà, et en fait il va y avoir des ouvertures entre les différentes salles, du coup chaque boîte constitue une salle, et il y a des ouvertures entre ces salles qui vont permettre donc de progresser d'une salle à l'autre, d'une boîte à l'autre.
Donc il y a des ouvertures
dans
les boîtes.
Le matériel, c'est ça. Sur les côtés en fait il y a des ouvertures, ça va créer des portes qui vont permettre d'aller d'une salle à une autre.
Y compris du coup dans la boîte principale, dans laquelle tu ranges tout quoi.
C'est une bonne oui, la D'accord. boîte principale oui, parce qu'en fait le couvercle ne sert pas au jeu en fait.
D'accord.
C'est que la partie inférieure de la boîte qui du coup effectivement elle est ouverte, mais ça ne se voit pas quand tu fermes ta boîte.
Tu fermes ta boîte, OK.
C'est compréhensible.
Ouais, c'est compréhensible.
Et donc le principe du jeu c'est que un joueur va alternativement. Chaque joueur va jouer le gardien, le surveillant de la classe.
D'accord.
Et va devoir essayer d'attraper les autres joueurs. Donc chacun a un culbuto en forme de pingouin. Voilà, pour rappeler le thème, en fait, donc on est dans une cour d'école qui est glacée, en fait on est sur la banquise, et donc c'est des pingouins qui sont à l'école, et donc le surveillant est aussi un pingouin.
D'accord.
Et donc là on comprend pourquoi les petits pingouins vont glisser sur la glace, ces culbuto vont glisser en fait sur le plateau, comme des pingouins pourraient glisser sur la glace. Donc c'est plutôt bien rendu du coup, le thème est plutôt pas mal trouvé, même si il est très très fantaisiste, mais du coup ça matche bien. Alors le but du jeu, oui, ça va être chaque joueur à son tour va jouer le surveillant, et le rôle du surveillant, ça va être d'attraper les autres pingouins, donc les autres joueurs. Et pour ça, en fait, il va falloir simplement qu'il se télescope sur les autres joueurs. Quand il se télescope sur les autres joueurs, il va prendre leur carnet de correspondance, en gros, et puis il va le mettre de côté. Une fois qu'il a réussi à récupérer tous les carnets de correspondance, la manche s'arrête. Il y a une autre possibilité pour que la manche s'arrête, c'est que un joueur parvienne à passer sous les trois portes, enfin sous trois portes en particulier qui sont référencées dans le jeu, sur lesquelles en fait on accroche des poissons. En fait, le but du coup des écoliers, c'est d'aller récupérer les poissons en passant sous les portes.
Ok.
Voilà, pour le coup, pour le thème, c'est pas... Enfin, bon. Bon, c'est des pingouins qui mangent des poissons, quoi.
Ouais, ça
jusque là, ça colle à peu près. Bon, pour le côté école, ça matche un peu moins bien, mais bon. Mais pourquoi pas.
On peut avoir un petit creux hein, à l'école. Hein.
Tu sais, ouais, c'est ça en goûter. Fait, ils se barrent de la classe pour aller bouffer. Ouais,
c'est gourmand, un pingouin.
Sans doute. Et donc là, les écoliers vont devoir passer sous certaines portes pour récupérer donc les poissons. Et quand ils récupèrent un poisson, ils vont piocher une carte. Sur cette carte, on va gagner de 1 à 3 points. Donc c'est là le côté aléatoire du jeu, il est sur cette pioche de points. Bon, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc on peut gagner de 1 à 3 points sur un poisson récupéré.
D'accord.
Le surveillant, lui, il va à la fin de la manche... Donc que ce soit lui qui ait provoqué la fin de la manche en récupérant tous les carnets de liaison, ou que ce soit un écolier qui ait récupéré ses trois pingouins, ses trois poissons, pardon. Ouais. Mais sinon ça commence à être, on va avoir des pingouins cannibales. Donc à la fin d'une manche, que ce soit le surveillant qui a attrapé les trois, quand on voit quatre, qui a attrapé tous les écoliers ou un écolier qui a récupéré ses trois poissons, donc la manche s'arrête. Le surveillant va récupérer autant de cartes poissons qu'il a récupéré de carnets de liaison.
D'accord.
Plus une pour sa propre carte. Voilà. Et les écoliers vont récupérer autant de cartes que de poissons ramassés.
Donc généralement tu gagnes plus de points quand t'es surveillant du coup que quand t'es écolier, en théorie.
Bah en théorie oui, en pratique bah disons qu'en théorie t'as au moins la carte qui correspond à ton carnet de liaison à toi.
Ouais.
T'en as forcément une en fait. Et après, ça dépend vraiment de ta dextérité dans le jeu. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est un jeu de pichenette.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, en nombre de cartes, oui, potentiellement, tu vas ramasser plus en étant surveillant. Mais justement, c'est là que la première manche se termine, la deuxième manche s'enchaîne, et là, on inverse les rôles. C'est-à-dire qu'il y a un autre joueur qui devient surveillant, et l'ancien surveillant devient écolier.
Ok.
Et en fait, on va faire autant de manches qu'il y a de joueurs, tout simplement, pour que tout le monde ait été au moins une fois surveillant. Du coup, bah, quand on est 4, ça dure potentiellement un peu plus longtemps, parce qu'il faut, pour le surveillant, il faut attraper 3 écoliers. Pour les écoliers, ça revient au même, il faut toujours attraper 3 poissons.
Ouais.
Quand on est à 2, bah, du coup, il y a plus que 2 personnes sur le plateau, donc pour le surveillant, ça peut aller plus vite. Seulement, du coup, comme c'est un jeu de pichenette et que les premières parties c'est pas forcément évident parce qu'on est quand même sur des cubes buto, donc c'est pas évident. J'ai pas joué à deux, mais je pense pas que ce soit la meilleure config en fait. J'ai pas très envie de jouer à deux en fait.
Et les positions de départ c'est quoi en fait, parce que enfin le surveillant il peut pas, c'est qui commence, est-ce que le surveillant peut pas attraper rapidement si les positions de départ sont trop proches?
Alors en fait on est les positions elles sont figées. C'est les écoliers qui démarrent.
D'accord.
S'il y a 3 écoliers, c'est le premier, puis le deuxième, puis le troisième, okay. Et ensuite seulement le
surveillant. C'est cartes du surveillant.
Voilà, c'est ça. Bon, en fait, justement, c'est ce qui est un peu marrant. Le premier écolier, il va aller d'un côté, le deuxième, il va souvent aller de l'autre, et puis le troisième, il va choisir un côté, et forcément, il va se faire maudire par le mec qui a choisi de suivre, quoi, grosso modo, parce que forcément, le surveillant, il va être tenté d'aller là où il y a 2 écoliers, quoi.
Ouais.
Voilà. Et donc en fait, les positions elles sont complètement opposées hein, sur le plateau de départ. Donc il y en a.
D'accord.
Les écoliers vont démarrer d'une boîte, le surveillant va démarrer de la boîte opposée. Et donc ouais, ça c'est figé. Et d'ailleurs même la position des boîtes est figée. On n'est pas censé pouvoir faire d'autres configurations. J'ai pas essayé. Je sais pas s'il serait possible d'utiliser d'autres configurations.
Oui,
ça risque de mettre.
T'as qu'une seule configuration. Proposé,
qui est prévu en tout cas dans le jeu, ouais.
Ouais.
Parce que c'est une configuration en carré avec 5 salles. Et si on essaie de faire d'autres configurations, forcément on va avoir des choses un peu sinueuses, plutôt en couloir entre guillemets. Et forcément j'imagine que ça va être un peu plus compliqué à équilibrer quoi. C'est-à-dire que si le surveillant démarre complètement à l'opposé de la boîte, on va peut-être avoir moins... C'est peut-être pas une question d'équilibre en fait, mais plutôt d'interaction. C'est-à-dire que les interactions elles vont être moins intéressantes. Ou on va se retrouver du coup avec le surveillant qui va arriver au bout du couloir et les écoliers qui arrivent à l'autre bout. Donc...
Ouais, ça va être plus linéaire, ça va faire un FAQ de sac.
Ouais, ça va devenir du bowling en fait quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc ouais, j'ai pas essayé, mais effectivement, je trouvais ça dommage, mais à y réfléchir, je me dis qu'il y a peut-être effectivement pas trop d'autres solutions que cette configuration-là. Bon, ce serait à étudier un peu, mais...
Et c'est quoi la taille des boîtes à peu près ? Enfin, c'est gros du coup, ça prend de la place ?
Alors, on est sur une boîte qui doit faire dans les 50 cm de long. Pour la plus grande, entre 40 et 50, je dirais.
D'accord.
En fait, on est sur un format de boîte. On est sur un format de boîte qui ressemble au format des anciens jeux type Monopoly.
D'accord.
Tout en longueur.
Mais du coup, tu alignes pratiquement 5 boîtes comme ça, c'est ça, de cette taille-là.
Alors en fait, t'en as 4 qui sont presque de la même taille, mais bon, ouais. Ils sont quand même un petit peu plus petites les unes les autres pour que ça rentre quand même. Et puis une plus petite qui est carrée.
Okay.
Qui vient au milieu en fait de toutes les autres. Que dire d'autre ? Alors ce qui est marrant, c'est que dans le livret de règles, ils expliquent des coups particuliers en fait qu'on peut faire avec les cubes buto, parce que justement tout l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir faire des trajectoires en courbe avec les cubes buto, ou faire des trajectoires sautées, c'est-à-dire en fait on va pouvoir faire sauter son pingouin par-dessus un mur typiquement.
Ah oui.
Oui, parce que du coup, il y a des murs. Les portes elles sont quand même pas super super grandes, hein, donc on finit quand même par réussir à faire des coups. Moi je suis pas très habile avec le coup sauté. Mais les courbes, au bout d'un moment, on arrive à obtenir des courbes. Alors, on a des courbes. Après, je vous dis pas que vous arrivez à passer 2-3 portes d'affilée. Parce que faire une courbe, ok, mais faire la bonne courbe, c'est notre histoire aussi. Hein.
C'est ça.
Voilà. Mais oui, il y a une courbe de progression sur la pichenette qui est plutôt intéressante. Et puis, ouais, du coup, c'est un peu fun, quoi. C'est pas de la pichenette classique, quoi.
Ouais. Moi, c'est ce qui me fait toujours un peu peur dans les jeux de pichenette, c'est la durée de vie, parce que je sais que Flick 'em Up c'est un peu ça aussi. Je trouve toujours ça amusant au début, et au bout de 3-4 parties, t'as moins envie de le ressortir parce que c'est un peu répétitif, quoi, puisque t'as pas de. Je sais pas, c'est ce genre de jeu d'adresse, j'ai toujours peur de me lasser vite. Mais là, effectivement, s'il y a une comprends. Histoire de technique. C'est une histoire de courbe de progression, parce que, enfin, Flick 'em Up, bon, tu peux avoir une courbe de progression, mais si t'es bon, si tu vises bien, et si t'as un bon petit doigté, enfin, tu vas pas évoluer non plus, t'as pas des coups hyper techniques à faire.
Non, non. En fait, Flick 'em Up va, en termes de durée de vie du jeu, va s'orienter
sur les scénarios.
A choisi l'aspect scénario.
Ouais.
Pour varier des parties. Et trouver un nouveau souffle au jeu pour te donner envie de retourner sur le jeu. High School, on n'a pas du tout cet aspect-là, et c'est pour ça que je trouvais dommage, en particulier au début, qu'il n'y ait pas la possibilité de faire des configurations différentes, parce que ça aurait été permis de faire varier les parties. Ah, mais effectivement, à bien y réfléchir, je pense que c'est effectivement peut-être pas la bonne solution. De toute façon, j'imagine que les auteurs y avaient pensé, donc s'ils ne l'ont pas proposé, c'est qu'il y a sûrement une raison.
Et puis il n'y a aucun autre élément que les boîtes et les pingouins. T'as pas de choses posées dans les boîtes, d'obstacles, de choses comme ça.
Non, bah pour ça après, à la limite on pourrait, mais là pour le coup ça... Honnêtement c'est quand même pas évident, enfin... Bon, j'avoue, je vais faire le mec pas très modeste, mais je m'en sors pas trop mal. j'ai tendance à gagner un peu, mais c'est quand même pas évident, quoi. Enfin, je veux dire, je m'en sors pas trop mal parce que les autres s'en sortent moins bien, quoi, tu vois.
Ouais. Oui, non, c'est pas évident. Les jeux de pichenette, c'est pas évident. Je suis d'accord.
Voilà. Et oui, parce qu'il y a ces techniques à essayer d'acquérir, et puis clairement, enfin, des fois tu tentes des coups, et puis tu te plantes dans le mur, donc t'as perdu ton coup, quoi. Voilà. Hein. Donc ouais, là où Flick & Meuf va chercher des scénarios, High School va plus sur le, l'aspect technique et le...
La progression dans le geste et dans, le, dans les possibilités de...
Voilà, c'est ça, ouais. Mais après, quelqu'un qui sait super bien jouer et qui te fait les coups qu'on peut voir sur, dans la petite vidéo de démonstration du jeu, bah il va te mettre la misère, quoi. C'est évident, c'est l'inconvénient du jeu aussi, quoi. C'est que dès que tu joues avec des joueurs d'un niveau différent, il y a plus de jeu, quoi. C'est... Il y a plus, ok, il y a l'amusement d'y jouer, mais il n'y a pas l'amusement de chercher la victoire, quoi.
Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, l'aspect culbuto, c'est intéressant parce que... Enfin, ça doit être assez difficile. J'ai pas joué, moi, mais j'imagine que si tu tapes un peu trop ou pas bien, le truc fait juste basculer en avant et revient. Enfin, t'es pas sûr de le faire avancer correctement, quoi.
Alors, bon, que le truc reste sur place, ça nous est pas trop arrivé, quand même. Mais parce que justement, en fait, si tu tapes la tête, c'est là que t'es censé pouvoir faire un saut.
D'accord.
Voilà. Et si tu tapes sur les côtés, que t'es censé pouvoir faire des courbes, mais si tu tapes bien droit, normalement, sur la base du culbuto,
ouais, il part tout droit, ouais.
Bah, tu dois pouvoir...
faire des...
Après, il y a... Enfin, il faut pas aussi négliger le côté aléatoire de la pioche. La dernière partie que j'ai fait, typiquement, j'ai quasiment pioché que des 3. Donc, alors, ok, c'était moi qui avais le plus de cartes, donc, entre guillemets, ça tombait bien. J'aurais, enfin, ça aurait pas été mon cas, j'aurais eu que des 1. J'aurais peut-être été dégoûté parce que quelqu'un qui aurait eu peut-être 3 cartes ou 4 cartes de moins que moi aurait eu que des 3.
Gagner, ouais. Voilà.
Bon, ça, c'est le côté aléatoire de la pioche. Il y a quand même un petit lissage qui est fait sur les cartes 1. En fait, quand on a 2 cartes 1, on peut les montrer. Donc, ça ne nous enlève pas nos points. On les montre et on peut refaire une pitch nette.
D'accord. Ça te fait un rejoué. Ouais.
Voilà, c'est ça. Du coup, en général, c'est plutôt sur la fin de la partie. Les gens vont avoir tendance à sortir leur double 1. Parce que déjà, au début de la partie, de toute façon, tu les as pas. On va sortir leur double 1 pour jouer des doubles pitch nettes. Donc, au final, oui, c'est sympa, mais il y a quand même des chances que tout le monde arrive à sortir un double 1 au bout d'un moment, quoi. Donc, au final, je suis pas sûr que ça équilibre tant que ça. Voilà.
C'est vrai que pour le coup, à 2, l'intérêt du jeu à 2 doit être un peu moindre. Ouais.
Bah, je pense que deux personnes, peut-être, qui maîtrisent bien le jeu, vont peut-être s'amuser au niveau technique. Mais bon, après, ça c'est un jeu fun quand même, donc
oui.
Voilà,
c'est plus marrant quand t'es plusieurs.
Ouais, c'est pas un duel à mort de figurines, hein, même si on peut considérer que les pingouins sont des figurines.
Et les pingouins, ils font quelle taille à peu près? C'est gros ou...
Ils font 4 cm d'eau, 4-5 cm d'eau.
Ouais,
4 cm d'eau. Ouais.
Alors un peu de surface quand même pour pitcher, quoi.
Ouais, puis bon, il y a possibilité pour les amateurs de figurines de les peindre, pour que ça ressemble vraiment à des pingouins.
Ah, parce qu'ils sont tout gris, ils sont tout...
ils sont de couleur, quoi. T'as un jaune, un rouge, un bleu...
D'accord. Ouais, du coup, c'est un jeu assez épuré en termes de matos et de... Enfin, c'est...
Bah, au final, t'as les 4 culbuto, t'as la boîte, les cartes, la boîte. Il y a plusieurs boîtes, du coup, quand même.
Ouais.
Ce qui, c'est pas anodin, quand même, en termes de prix de matériel. La boîte, ça compte quand même pas mal, hein, dans le prix d'un jeu. Il y a les petits poissons, en fait, qui s'accrochent sur les murs, on va dire, pour être mis au-dessus des portes.
D'accord.
Donc il y en a 4x3, plus d'autres qui servent à tenir les boîtes entre elles. Qu'est-ce que j'ai dit? Les cartes, oui, c'est tout. Ouais.
Et voilà. Du coup, le prix de vente, c'est quoi de ce jeu?
Alors le jeu, il est à 32,50€ chez Philibert.
Ok.
Alors, je trouve que c'est honnête pour un jeu de pichenette.
Avec le tas de boîtes, oui, c'est vrai que Clic de Map était. Enfin, il y avait plus de décors et une grosse boîte en bois, mais c'était bien plus cher.
C'est pas super comparable du coup par rapport au matos, etc. quand même. On pourrait plus comparer à des jeux comme Compact Curling ou Compact Bowling,
oui, okay.
Et qui eux, du coup, pour le coup, ont moins de matériel et qui eux se situent à 20€.
Ouais.
Mais là, on n'a pas, c'est pas le même genre de jeu.
Ouais, puis c'est des petites boîtes, cela. Enfin, c'est des petites boîtes longues là.
Oui, c'est des trucs qui
se déroulent. Ouais. Espèce de tapis qui se déroule. Ouais, c'est pas. Oui, en termes de matos, c'est pas comparable aussi. Ok.
Voilà. Donc en conclusion, moi je le conseille. Je le trouve vraiment marrant. Si vous êtes amateur de jeux de pichenette, bah il a vraiment une certaine originalité ce jeu. Si vous n'aimez pas le jeu de Pichenette, c'est clairement plus technique que la plupart des jeux de Pichenette, donc passez votre chemin. Et puis, ouais, c'est assez, c'est rigolo, quoi, c'est assez novateur. Après, c'est un peu dommage, je trouve, ce système, du coup, c'est intéressant le côté asymétrique. Mais du coup, forcer les joueurs à devoir alterner le rôle, je trouve que c'est un peu artificiel comme,
ouais, thématiquement,
comme façon de faire.
C'est pas top, ouais.
Ouais, c'est ça. Mais bon, ça a le mérite de fonctionner quand même. Alors, le jeu est conseillé à partir de 6 ans. Je pense effectivement que les enfants, ça doit marcher, même si au début, la technique, elle va être encore plus longue à acquérir. Mais voilà. Et donc, c'est en français et c'est distribué par Atalia.
Ok.
Voilà pour High School.
Bah, on passe à Riders.
Eh ben, on passe à Riders.
On va changer un petit peu de type de jeu, hein, puisque là, on n'est pas trop sur un jeu d'ambiance et un jeu rigolo. C'est plutôt un jeu de réflexion.
Un jeu pour vikings qui ont du poil, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Quoique, il est quand même relativement accessible. Hein. Mais ouais. Donc c'est plutôt un jeu de pose d'ouvrier, plutôt un jeu à l'allemande. Pour donner le contexte, c'est un jeu de Shem Phillips. C'est un néo-zélandais qui fait des jeux et qui les propose sur Kickstarter. Donc Riders, en fait, c'est le deuxième jeu d'une trilogie sur le thème des vikings. Donc voilà, là, maintenant les trois jeux sont sortis. Donc le premier, c'était Shipwright, donc c'est les charpentiers. En fait, c'est une trilogie viking qui représente chacun un des âges, une des périodes des vikings. Donc le premier, Shipwright, les charpentiers, en fait, dans le jeu, c'est un jeu de draft avec des cartes et des ressources dans lesquelles il faut construire les bateaux. Donc on est viking à terre, faudra construire ses bateaux voilà, pour partir. Partir faire des raids, justement. Donc Raiders, c'est le deuxième opus, c'est celui duquel on va parler. Donc là, c'est un jeu, je vais vous expliquer, mais où il va falloir aller piller des villages à terre, etc., des postes, des camps à terre.
Donc jusque là, ça colle par rapport au titre du jeu, quoi.
Ouais, voilà. Non, mais les titres sont bien choisis, hein. C'est assez... Et le dernier opus qui est sorti là très récemment, c'est Explorer. Donc ça, c'est un troisième âge viking où justement c'est un jeu de tuiles. Donc ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois c'est des mécaniques un peu différentes, mais avec quand même un univers graphique et un univers de matériel qui est très cohérent entre les trois. Enfin, c'est le même illustrateur. Alors son surnom, il est connu sous le nom de The Miko, hein. Et sinon c'est un nom Mihajlo Dimitrievski. Voilà, c'est... qui nous vient des pays de l'Est, sûrement. j'ai répété pas mal, hein, comme d'hab, les noms de
d'illustrateurs. Je pense qu'il faudrait que tu t'obliges, tu vois, ça fait quand même déjà deux fois que tu tapes quand même des noms bien tarabiscotés. Je pense qu'il faudrait que tu t'obliges pour les prochaines chroniques à bien sélectionner un jeu avec un nom d'auteur ou un nom d'illustrateur
avec
quand même,
Lalu,
dans la même veine.
Plus simple, plus habituel.
Non, j'aimerais que tu continues dans cette voie-là, tu vois.
Donc je l'impose, ouais, bien. Donc je choisis tous les jeux en fonction du nom de l'illustrateur, très bien.
C'est ça.
J'essaierai. Donc c'est cet axe de trilogie. Donc ça, c'est un élément qui est assez innovant. Enfin, je trouve ça assez intéressant d'avoir un chapitre.
Ouais, on commence à voir, c'est ça, on commence quand même à voir des choses apparaître comme ça. On a, enfin, je pense à Time Stories qui a un fil rouge quand même. On a des jeux comme, Ludonote qu'on a reçu, qui vont sortir Legends of Ruma. Les éditeurs commencent à choisir cette voie d'avoir des univers cohérents et.
Ouais. Ah, c'est... Ouais, mais je pense que c'est un des premiers qui a. Enfin, moi, c'est la première trilogie comme ça que j'ai connue. Hein, parce que Raiders a maintenant un peu plus d'un an et Shipwright a. Enfin, quand il a sorti Shipwright, c'était il y a 3 ans, je crois. Et voilà, il parlait déjà de faire cette trilogie. Et le truc intéressant aussi qu'il a fait, donc il y a ces trois jeux, il a sorti une petite extension qui s'appelle Run Saga, et qui en fait va lier ces trois jeux. Donc ça va faire un espèce de gros jeu dans les jeux. C'est un truc qu'on peut rajouter. En fait, il faut jouer les trois jeux de suite. Et dans chaque jeu, on va gagner des pierres, en fait, des runes, en fonction de certaines conditions. Donc il va y avoir des objectifs au sein des jeux pour gagner des runes. Et puis aussi, si on gagne la partie de chaque jeu, on va gagner des runes, etc. Et donc à la fin des trois jeux, celui qui a le plus de runes, en fait, a gagné la partie globale, quoi. Donc ça, c'est...
C'est en trois manches, quoi.
Voilà, c'est trois manches avec trois jeux différents qui font l'arc narratif des Vikings. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de faire ça. J'ai surtout joué à Raiders. Alors, de l'avis général, c'est vraiment Raiders qui est le meilleur. D'ailleurs, comme on le disait, il va sortir en français chez Pixie Game. Donc il sort en français.
Qui n'a pas fait le premier du coup.
Qui n'a pas fait le premier, voilà. Il sort que celui-là pour le moment. Shipwright est vraiment pas mal, surtout avec l'extension en fait. Il y a une extension qui a été faite qui équilibre le jeu parce qu'il y avait un petit déséquilibrage. Donc l'extension a remédié à ça. Donc Raiders qui sort en français chez Pixie Game. Donc Raiders, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. C'est un jeu de pose d'ouvrier qui est assez simple, vraiment assez épuré dans la mécanique, même s'il y a pas mal de paramètres. Mais en gros, on part tous avec un petit viking noir. En fait, il y a des vikings de trois couleurs différentes, noir, gris et blanc, qui sont en fait de plus en plus expérimentés, qui vont permettre, en fonction de leur couleur, d'avoir des actions un peu plus puissantes ou d'attaquer un peu plus loin dans les terres. Et en fait, à chaque tour, on va poser un viking et en reprendre un. Et c'est tout. Donc on va faire une action du viking qu'on pose, une action éventuellement du viking qu'on reprend, et c'est au joueur suivant.
Et du coup, quand tu reprends un viking, tu refais l'action de la case sur laquelle il était, en fait. Tu refais l'action qu'il a fait en arrivant, en fait, c'est ça ?
C'est ça, d'accord. Tu refais l'action qu'il a fait en arrivant, et c'est pas forcément toi qui l'a posé, en fait. C'est-à-dire que ton premier, que tu vas poser, tu le laisses en place, et t'en reprends un autre. Et donc le joueur suivant pourra éventuellement... Tu lui bloques comme première action la case où tu l'as mis, parce qu'il peut pas le poser dessus, c'est pas une case libre. Il n'y a qu'un slot, en fait, par action. Donc il fait une première action sur un emplacement libre, et une deuxième action sur un emplacement occupé qui le rend libre. Et donc ça, ce petit mécanisme, il est très sympa.
Mais alors, ça veut dire, c'est un peu bizarre, parce que du coup, ça veut dire que finalement, quand tu poses un de tes vikings, tu fermes pas l'option aux autres joueurs, puisque l'autre joueur peut retirer ton viking pour refaire l'action, là.
Oui, mais tu le fermes en première action. Enfin, ça peut avoir une importance. En fait, pour être totalement clair, sur le plateau, il y a deux zones, en fait. Il y a la première zone qui est le village, là où on va préparer ses raids. D'accord, c'est là où on va recruter de l'équipage, c'est là où on va piocher des cartes, on va vendre, enfin récupérer de la nourriture, éventuellement vendre un peu ce qu'on a pillé. Et donc c'est ici que ça marche, où tu poses, tu reprends sur les actions. Et en fait, des fois le fait de poser sur une action, ça va bloquer certains joueurs, puisque par exemple s'ils veulent recruter un viking, il va falloir qu'ils payent de l'argent, et donc il faudrait qu'ils posent en première action. S'ils veulent faire ça en un seul tour, faudrait qu'ils posent sur une case vide pour reprendre de l'argent et qu'ils récupèrent un viking sur la case recrutement pour donner de l'argent. Donc en fonction des places occupées et des places libres, le timing et l'enchaînement des actions va être différent et va pas forcément être avantageux. Tu vas pouvoir perdre du temps si le timing est pas bon. Donc comme ça, tu vas pouvoir bloquer les autres.
D'accord. Du coup, tu penses que c'est plus bloquant qu'un jeu de simple pose d'ouvrier, ou c'est moins bloquant quand même?
C'est différent parce que
ça dépend, c'est le timing en fait qui va
tout faire, et puis c'est pas réellement bloquant parce que t'as toujours des actions à faire et tu peux avoir des actions intéressantes.
C'est pas optimisé.
C'est pas optimisé. Est-ce que c'est plus ou moins bloquant qu'un jeu d'action, un jeu de pose d'ouvrier classique? Je dirais quelque part moins, puisque si tu veux faire une action, tu vas quand même pouvoir la faire en retirant le meeple, mais ça va te décaler légèrement dans ton timing. Ça peut te décaler d'un tour, etc. Et c'est tout là, c'est là où tout s'optimise quelque part.
Ouais, donc en fait, ça génère peut-être un petit peu moins de frustration finalement, quoi.
Ouais.
Sauf qu'effectivement, comme tu vas pas optimiser, ça va peut-être pas te faire gagner, mais t'es peut-être un peu moins frustré.
C'est ça. Ça, après, comme tous les jeux de placement, ça génère quand même de la frustration des fois. Quand tu dis mince, perdre un tour sur des jeux de placement, des fois, c'est. Oui, il faut qu'il y en ait. Donc en fait, il y a cette mécanique de base qui est assez simple. Donc il y a différentes actions au village. Donc recruter en fait l'équipage, c'est on va tirer des cartes, il y a quand même des cartes dans le jeu, et sur ces cartes il y a différents types de vikings qu'on va pouvoir recruter. Donc ça, on en a au début. Il y a une action qui permet d'en piocher ces cartes, donc on a des cartes en main, et on va pouvoir soit faire, en fait sur la carte il y a le viking, le nom du viking a une force, une force d'attaque qui peut être zéro en fait, puisqu'il y a des vikings qui sont spécialisés des fois dans la vente ou etc. Et ils ont deux pouvoirs. Ils ont un pouvoir qui est actif quand tu le recrutes. Donc si tu payes et qu'il vient dans ton bateau, dans ton équipage, son pouvoir permanent, une fois que tu l'as recruté, va être actif. Et il y a un autre pouvoir que tu peux utiliser plutôt qu'en le recrutant et en le payant pour le recruter, en le défaussant. Il y a une action qui te permet de défausser un viking, et quand tu le défausses, tu vas pouvoir faire son action immédiate en fait. Donc tu as une action permanente si tu le recrutes, mais le recruter c'est payant, et une action, on va dire, immédiate, que tu peux réaliser en la défaussant. Alors c'est des actions que tu dois faire au village, ça, recruter ou faire l'action immédiate, c'est une action, tu dois poser un petit meeple pour faire l'action.
Ah d'accord. Donc en fait, ces vikings dont tu parles, c'est des vikings qui sont sur des cartes qui ont des effets particuliers, c'est pas les mêmes vikings que les meeples.
Non, les meeples c'est pas vrai. Enfin, les meeples ça va représenter tes actions, mais ça représente pas ton équipage de vikings.
Oui, d'accord.
Donc en fait, après, donc ça c'est la préparation. Après, pour attaquer, donc en fait, après, donc ça c'est le petit village. Après, t'as la mer en fait, et sur la mer, tu vas voir premièrement les ports que tu peux attaquer. Et après, tu auras une carte terrestre, derrière, tu auras les avant-postes, derrière, tu auras les monastères, et derrière, tu auras les forteresses. Donc, plus tu vas monter dans la carte, plus les lieux vont être difficiles à attaquer. Donc, les ports vont être assez accessibles.
Une armée puissante de vikings. Bien costaud.
Voilà, c'est ça. Et donc c'est là où je t'expliquais qu'il y a des vikings de différentes couleurs, c'est-à-dire que tu as vikings noirs, gris et blancs. Les ports, tu vas pouvoir les attaquer avec des vikings noirs ou des vikings gris que tu vas récupérer. Et du coup, il va falloir dépenser de la nourriture et avoir un nombre minimum de vikings dans ton bateau pour pouvoir attaquer. Donc tu attaques des ports ou des avant-postes, etc. Donc ça, c'est des petites cases dans lesquelles il va y avoir des butins. Donc les butins, il y en a différents, il y a des têtes de bétail, il y a de l'or et du métal. Donc les têtes de bétail, elles peuvent te servir à récupérer de la nourriture. Si tu vas dans une action du village, tu peux les tuer pour récupérer de la nourriture.
Ouais, ça sert de monnaie d'échange pour obtenir la nourriture, ok.
Ou alors toutes ces ressources valent aussi des points de victoire à la fin. Donc par exemple, les têtes de bétail, deux têtes de bétail valent un point. Il y a l'or, à la fin ça vaut un point, et il y a le métal, à la fin ça vaut un point. Donc l'or, c'est purement juste des points de victoire. Tu peux pas tu peux rien en faire. Si exception près, c'est qu'il y a une action au village aussi où il y a des demandes du chef. Donc ça, c'est des petites tuiles où il faut dépenser
des objectifs, c'est
ça. Ouais, des petits objectifs. Donc c'est des petites tuiles. Tu dois dépenser un certain nombre de choses qui sont demandées sur les tuiles et tu les récupères. Et ça, elles valent des points de victoire aussi, qui sont généralement supérieurs aux ressources que tu dépenses.
Sinon, la somme des ressources, c'est faut espérer quand même.
Oui, c'est ça. Et donc tu peux dépenser, là c'est toutes ressources confondues, même des pièces en fait, des sesterces, parce que tu as des pièces aussi dans le jeu qui te permettent justement de recruter des vikings. Le métal, donc ça sert aussi à ça, à récupérer les tuiles, et ça peut servir aussi à améliorer ton armement. En fait, tu as trois pistes autour du plateau. Donc t'as la piste classique de score, hein, où tu vas monter ton score au fur et à mesure. Parce que quand tu pilles, tu gagnes aussi des points de victoire un peu bruts, nature. Tu as la piste d'armement, puisque autant les ports sont assez faciles à attaquer, tu n'as pas besoin d'avoir une valeur d'attaque minimum, autant les lieux suivants que tu vas pouvoir attaquer, va falloir que tu aies de la nourriture et un nombre de vikings minimum, mais il va aussi falloir que tu aies une valeur d'attaque minimum pour avoir des points de victoire.
D'accord.
Donc ça, tu vas pouvoir les avoir comment ? Déjà, tu as tes vikings dans ton bateau qui ont chacun des points d'attaque particuliers, chacun. Donc tu vas faire la somme de tes vikings dans ton bateau. Tu vas ajouter ta valeur d'armement. Donc ça, avec en dépensant du métal ou il y a d'autres cartes aussi qui permettent de le faire, tu vas pouvoir monter sur une échelle d'armement qui va de 0 à 10. Ouais. Sachant que quand tu passes la valeur 3, la valeur 6 et la valeur 9, tu gagnes aussi des points de victoire. Donc c'est une échelle aussi qui, en plus de l'armement, te fait gagner des points de victoire. Et t'as une dernière échelle, donc t'as un système assez sympa aussi, qui est l'échelle des Valkyries. Donc en fait, sur ces petites cases où tu vas piller et sur lesquelles tu vas récupérer des ressources, c'est pas vraiment une ressource, mais il y a aussi des petites têtes de mort noires, des petits crânes noirs, qui représentent les Valkyries. Donc les Valkyries, en fait, elles demandent un sacrifice. Donc à chaque fois que tu vas piller, si tu choisis le butin, en fait, sur chaque lieu, t'as 3 ou 2 cases que tu peux choisir en fait. C'est-à-dire que les ports, par exemple, il y en a 3, et sur chacun des 3 ports, il y a 3 emplacements. Donc toi, tu décides lequel port tu attaques, et si tu es le premier à attaquer ce port, tu vas choisir lequel des 3 emplacements tu pilles.
D'accord.
Et les suivants
ouais,
vont voir
vont
piller
te rapporter
après.
du coup.
Donc si t'es le premier arrivé, t'as le choix. Si t'es dernier arrivé dans le port, bon bah tu prends la case qui reste. Mais du coup, tu vas pouvoir choisir sachant que les ressources sont placées au hasard sur les cases. Il y a un nombre de ressources indiquées pour chaque case et elles sont placées au hasard. Et donc dans ces
D'accord.
ressources, tu retrouves des crânes de Valkyrie. Donc en fonction du nombre de crânes de Valkyrie qu'il y a dans le trésor que tu prends, dans le butin que tu prends, tu vas devoir sacrifier un nombre égal de ton équipage, de tes cartes.
En nombre de cartes, donc ouais, donc il faut ouais, ça va potentiellement, enfin un viking qui a une force de 3, il vaut 1 quoi, enfin c'est une carte quoi que tu sacrifies.
Oui, c'est une carte que tu sacrifies. Donc voilà, si tu récupères deux crânes de Valkyrie pendant un raid, tu vas devoir défausser deux cartes de ton équipage. Donc ça va potentiellement te ralentir, puisque tu dois recruter d'autres vikings pour pouvoir attaquer
Ah
plus
bien
loin.
sûr.
Mais en même
Mais du
temps,
coup ça te fait avancer sur l'échelle, c'est
voilà,
ça?
à chaque fois que tu vas sacrifier un viking, tu vas avancer sur l'échelle des Valkyries. Et pareil, en fonction de comment tu avances, ça va valoir beaucoup de points. En fait, c'est assez exponentiel. C'est-à-dire, au début, ça va pas valoir beaucoup de points. Mais si tu as vraiment beaucoup de sacrifices, à la fin, c'est une échelle qui est en 6 ou 7. Enfin, il n'y en a pas tellement, quoi. Il y a 7 trucs. Et à la fin, les 6 et 7, ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup de points.
Bon après ça c'est des mécanismes de scoring relativement classiques quoi. T'as des objectifs d'un côté, t'as des échelles qui te permettent d'atteindre un certain nombre de points d'un autre côté, l'échelle exponentielle.
Tout est relativement classique dans ce jeu. Vraiment, la petite originalité, c'est ce système de
De pause des pauses,
je
ouais.
pose un ouvrier, j'en reprends un. Sachant qu'en fait, ce que je te disais, les meeples gris et blancs, donc les plus forts, tu vas les débloquer justement en avançant. Parce que quand tu fais un raid, en fait, c'est un peu différent. C'est pas t'en poses un, t'en reprends un. Enfin, c'est t'en poses un. Et en fait, sur chaque case où tu prends le butin, tu as aussi un ouvrier d'une certaine couleur qui est là, que tu reprends. C'est-à-dire que
D'accord.
t'as pas une autre action. Ton raid, c'est qu'une seule action, sauf que t'en poses un et t'en reprends un. Et qui,
Ça te
justement.
permet de c'est ce qui te permet de gagner des
Voilà, des
Vikings, c'est ça
meeples
du
d'une
coup?
autre couleur.
Une autre
Des
couleur.
vikings d'une autre couleur. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au village, en fonction de la couleur de ton viking, certaines actions seront différentes, sont plus ou moins puissantes. Par exemple, si
D'accord.
sur certaines actions, tu peux les faire qu'avec un meeple gris ou blanc.
Ouais.
Et le
Il y
meeple blanc
avait
va potentiellement te
ouais, comment ça?
rapporter plus.
Oui, d'accord, ok, ouais, je
Et ce qui est
comprends.
intéressant aussi, c'est que si tu poses un meeple blanc pour avoir une action qui rapporte plus, bah le problème c'est que tu le laisses potentiellement disponible pour le joueur
Pour
d'après qui va
quelqu'un
en
d'autre,
poser
ouais.
un et en reprendre un. Donc il
Bien
va
sûr.
pouvoir te prendre un blanc. Donc voilà, ça c'est vraiment
Mais en fait,
intéressant.
mais comment tu augmentes ton. Enfin, tu augmentes ton nombre de meeples en fait, ou pas dans la partie, au final?
Non, tu en as toujours qu'un en fait. Comme t'en poses un, t'en prends un. Tu n'en as toujours qu'un en fait devant toi.
Mais tu. Ouais, d'accord, mais t'en as toujours qu'un devant toi, mais en fait, c'est la couleur de ce meeple qui change, quoi, en fonction de celui que t'as repris avant,
Ouais, c'est
finalement.
ça, c'est ça. Et qui va te débloquer certaines actions, qui va te permettre d'attaquer plus loin sur la map.
Ouais, et donc en fait, si personne ne va chercher le meeple gris, en fait, de la partie, il y aura que des meeples noirs dans la partie, quoi.
Ouais, alors des meeples gris,
Bon,
on a
ça
pas
arrive
mal. En
peut-être
fait, les
pas,
meeples
mais.
noirs, c'est ceux qu'on a au départ. Donc
Ouais.
c'est-à-dire que si on joue à 4, c'est un jeu, je l'ai pas dit, mais c'est de 2 à 4 joueurs. Donc si on joue à 4 joueurs, au départ, on a tous un meeple noir devant nous. Et il doit y en avoir forcément un ou deux qui sont déjà sur le village. Je sais plus
D'accord,
où.
il y en a qui sont déjà posés en fait, ok.
Ouais. Et donc les noirs sont que au village et dans les mains des joueurs. Après, dès que tu attaques le port, c'est tout de suite des gris que tu récupères. Le port et les avant-postes. Alors les ports, c'est que des gris que tu récupères. Sur les avant-postes, il y a deux avant-postes avec deux cases à chaque fois. Il y en a un où c'est un gris, un où c'est un blanc que tu récupères. Après, les monastères, c'est que des blancs que tu récupères, et les forteresses, c'est que des blancs que tu récupères. Donc ouais, l'originalité, c'est vraiment ce truc-là. Et donc après, le reste est assez classique, mais c'est très très bien huilé. Enfin, ça fonctionne très très bien.
J'en ai entendu beaucoup de bien en tout cas.
Ouais.
J'étais curieux de t'entendre sur ce jeu.
Après, le côté aussi avec les cartes, l'équipage, les bateaux, voilà, il y a différents pouvoirs de vikings qui sont intéressants, certains qui permettent de faire des crasses aux autres. C'est un jeu où il y
Ouais,
a quand même un
d'accord.
peu de confrontation, hein, c'est pas vraiment un jeu chacun dans son coin. Comme je te dis, les actions immédiates des vikings, quand tu les défausses, ça permet de descendre les échelles d'armement de certains, de faire défausser une carte à
Ouais.
certains, de piquer des ressources à certains. Donc c'est.
Ah mais du coup c'est quand tu joues ce genre de truc, c'est ciblé sur un joueur en particulier?
Oui. C'est
Tu pourris un joueur, quoi. Ouais,
tu
c'est.
pourris un joueur, mais c'est plutôt bien équilibré parce que tu vas. Enfin, après, ça, c'est toujours pareil, hein. C'est comme beaucoup de jeux où tu peux un peu, où t'as un peu de confrontation. C'est que si tu joues avec quelqu'un qui veut vraiment pourrir la partie, il peut. Mais si tu joues vraiment la gagne, tu vas pas aller pourrir celui qui est le plus au fond déjà. Tu vas
Oui,
essayer
bien
de
sûr, ouais.
pourrir le meilleur et puis.
Ça reste assez visible quand même, enfin celui qui mène la partie
Oui,
ou.
parce que les points que tu vas récupérer au fur et à mesure de la partie sont visibles immédiatement sur la piste de
Ah
score.
ouais.
Les ressources que tu emmagasines, l'équipage, tout ça, c'est visible. Le seul truc qui est caché, c'est les petites tuiles objectifs, les petites missions du chef. Ça, tu les récupères. Donc les gens voient ce que tu récupères, mais tu les stockes face cachée jusqu'à la fin de la partie. Et tu comptes les points de victoire qu'à la fin.
Ouais, donc en général, tu retiens pas forcément exactement
Non, tu
les
retiens pas
trucs des gens,
exactement, mais
quoi.
tu sais à peu près où les gens sont quand même.
Ouais, mais ça permet quand même d'éviter de te retrouver à. Parce que le problème aussi de tout visible, c'est t'as le premier qui est clairement devant, et du coup qui se fait défoncer, et c'est le deuxième qui gagne, quoi. Tu vois, enfin,
Ouais.
t'as des jeux comme ça où faut pas être en tête, quoi.
Oui, c'est
Et ça,
clair.
c'est un peu délicat comme genre de jeu, je trouve.
Bah après là, enfin, j'ai fait 5 ou 6 parties.
Ah, quand
Et
même déjà.
ouais, et globalement, c'est plutôt assez serré à la fin. Ça se joue à des petits détails, ça se joue à des choses que tu peux pas trop changer. Je veux dire, quand quelqu'un a pris beaucoup de Valkyrie et qu'il a déjà beaucoup de points sur les Valkyrie, bon bah ça tu peux plus lui enlever quoi. Enfin,
Ouais, tu peux pas.
y a des choses que tu peux pas retirer quand même. Et oui, donc les conditions de fin de partie, on a trois différentes qui mettent immédiatement fin à la partie. Soit quand toutes les petites tuiles objectifs ont été prises. Donc voilà, qu'il n'y a plus de tuiles objectifs, donc ça s'arrête. Soit quand tous les crânes Valkyrie ont été pris sur la carte, donc ça s'arrête aussi. Ou alors si aucune de ces deux conditions n'est remplie, à la fin, donc il y a trois forteresses avec deux emplacements de butin chacune. Quand il en reste plus qu'une de forteresse, plus qu'un emplacement de forteresse plein, en fait ça s'arrête. Tu pilles jamais en fait les six cases
Ouais,
de
tu fais jamais
forteresse.
tout. D'accord. Et tout ça tient en combien de temps?
Alors à
À
4,
4?
c'est pour une première partie, ça va monter peut-être à 1h30, le temps de découvrir les
Oui.
pouvoirs, etc. Et après, quand on joue avec des gens qui ont l'habitude, en 1 heure, ça peut tenir.
Ah ouais, ça se
C'est
tient
assez,
en peu de temps quand
bah c'est
même.
dynamique comme les actions. En fait, tu poses, tu reprends. Bon bah, t'as le temps de prévoir à peu près tes actions avant. Les actions sont pas compliquées à faire, hein. C'est vraiment tu pioches, bah tu recrutes, tu récupères les butins. Enfin, c'est pas des actions où t'as beaucoup de choses à faire, donc c'est assez dynamique. Et donc les tours vont assez vite, ça c'est agréable aussi. T'as pas beaucoup d'attente entre chaque joueur, ça joue assez bien. Et alors j'ai pas fait de partie à 2, j'ai fait à 3 et à 4. Et donc c'est aussi agréable à 3 à 4. Et je pense qu'à 2 ça marche. À 2 ça devient vraiment très, au niveau du timing et tout, ça devient vraiment très stratégique, très mathématique, je pense. Donc ça peut être aussi assez intéressant. J'ai hâte
D'accord.
d'essayer aussi Shipwright et Explorer du coup pour voir un peu. Donc Shipwright, j'ai entendu des sons de cloche un peu différents, mais voilà, tout le monde s'accorde à dire qu'avec l'extension c'est beaucoup mieux. Et
Ah mais du coup c'est quand même un peu embêtant
c'est un peu dommage,
quoi.
ouais. Mais bon, tiens, ça a été reconnu par l'auteur, hein, le
Ouais.
petit déséquilibre.
Après on peut peut-être espérer s'il y a une version française,
Qu'ils
soit qu'ils
l'intègrent
intègrent
dedans,
ça,
ouais.
soit ouais je sais pas.
Mais apparemment, c'est pas une grosse
Mais
extension, hein, c'est juste
ouais.
quelques cartes et quelques actions en plus.
Ah, donc c'est faisable peut-être. Alors si t'as pas un plateau en plus, un
Ouais,
paquet
je
de
pense que
50 cartes en plus,
c'est tout à fait
plus
faisable.
ouais.
Et Explorer, j'ai pas eu trop de retours encore pour le moment. Mais bon, enfin, c'est plutôt homogène, on va dire. Puis le côté, c'est des mécanismes un peu différents, avec quand même une homogénéité sur certaines actions, sur certaines ressources, et puis graphiquement aussi. Enfin, moi, c'est une petite trilogie qui me fait vraiment envie.
Ok, bah c'est cool. En tout cas, au moins celui-là, t'es sûr qu'il est pas mal, quoi.
Ouais. Donc j'ai pas encore le prix de sortie de Pillard chez Philibert. Pour info,
Non,
Shipwright
effectivement.
et Raiders, les VO, donc ils ont plus Raiders en VO mais ils ont encore Shipwright, c'était 42 € pour les versions
Ouais, je
entières.
pense
C'est dans ces eaux-là, je crois. Hein.
j'ai pas fait attention à Essen, combien il les vendait,
45.
mais
Pixie
je
à
pense que
Essen, c'était 45, je crois. Ouais.
45. Donc il faut s'attendre sûrement à peu près sur ces tarifs-là chez Philibert. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils aient réussi à faire un super tarif sur le salon parce qu'ils faisaient venir les jeux sûrement par avion, etc. Ouais. Donc à mon avis, il y a peut-être même des chances qu'on arrive à le trouver à moins chez Philibert.
Ouais, c'est ça, je pense autour de 40-42 chez Philibert.
Ils disent qu'ils vont lancer les précommandes mi-octobre.
Ouais, c'est ça. Donc bon, on est passé.
Mais on est déjà le 26.
Je disais en début de... je me suis rendu compte quand je disais ça en début de chronique, c'est que j'ai dit ça devrait arriver mi-octobre. Mais en fait, voilà, on est déjà le 26.
Ouais, non, on est déjà le 26 en fait. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu.
Le truc sympa aussi sur l'édition que fait Pixie, c'est que c'est vraiment une localisation, comme ils disent, c'est une traduction et ils gardent exactement le même matos que pour le Kickstarter. Qui est du matos assez sympa, genre les pièces sont en métal, toutes petites ressources sont en bois et tout ça, donc ça ils gardent exactement le même matos que pour le Kickstarter.
Ah, okay.
C'est vraiment une francisation pure du Kickstarter.
Alors après j'ai cru voir quand même que pour le tarif, la taille standard est souvent quand même assez imposante, et il me semble que là ils étaient sur un format un peu plus petit.
Oui, la boîte est assez étonnante la première fois qu'on la voit. La boîte est assez étonnante, elle est pas très grande.
Je sais pas, 20 cm peut-être de.
Ça fait à peu près, je sais pas si vous voyez, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple. La boîte de 10 minutes to kill, c'est une boîte un peu carrée en fait. Une boîte un peu carrée de 20 centimètres.
Ouais, ça doit faire une vingtaine de centimètres de côté.
Ouais. Mais en fait, le plateau est assez grand, mais il est plié en 6 pour faire un carré.
Ouais, c'est ça.
Il est plié en 6, donc il est un peu plus plié que ce qu'on. Peut-être qu'on peut avoir l'habitude en 2 ou 4, quoi. Donc il est un peu plus plié, donc ça fait un plié, il est assez épais. Et puis après, le matos dedans, c'est des cartes, des pièces, enfin, ça prend pas énormément de place. Je trouve que c'est pas mal parce que finalement, ça rentre bien dans la boîte, ça prend pas énormément de place dans les étagères, ça prend moins de place. Il y en a plein qui auraient fait des boîtes plus standards. On connaît plein de jeux où il y a moitié de vide dedans.
Pour le facing en boutique, etc. Quoi.
Ouais, il y a plein de vide dedans parce que c'est les tailles standards, c'est plus facile. Là, ils ont fait vraiment une boîte qui est bien adaptée. En plus, la trilogie est sur le même format de boîte. Non, ça c'est.
Pas pour déplaire aux joueurs collectionneurs.
Ouais.
Il valait mieux.
Ouais, c'est
pas avoir trop de grief.
Il vaut mieux. Voilà.
Ouais, ok. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est, voilà. C'est... Il y a peut-être un mouvement quand même qui s'amorce. Hein. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions sur les réseaux sociaux cet été sur ce sujet des formats de boîtes démesurés pour certains jeux.
Ouais,
et puis on va peut-être finir par avoir arrivé quand même des choses un peu plus raisonnées.
Là, j'ai reçu Sbire il y a pas très longtemps. Qui est un petit jeu de cartes, et donc pareil, ce format de boîte à peu près pareil que 10 Minutes to Kill et Riders, mais pour le coup, pareil, il y a la moitié
de vide, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué de se positionner entre le marketing en boutique
et la
place dans les étagères pour les joueurs, et puis la raison écologique aussi, je veux dire, pourquoi faire des boîtes deux fois trop grosses, donc deux fois trop de carton pour rien, quoi. Bon,
c'est vrai.
Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette chronique sur Pillard de la Mer du Nord.
Bah, merci à toi pour
ça m'a donné envie de l'essayer. Moi je suis déçu, j'ai pas encore réussi à essayer Scythe, hein, donc bon. Mais j'y arriverai peut-être un jour.
On aura l'occasion.
On va réussir à se faire ça au week-end proxy jeu peut-être.
C'est un problème, je le ramène.
Cool. Bon, bah bien. Eh bien, chers auditeurs, il nous reste à vous dire au revoir. On vous dit au mois prochain pour deux nouveaux jeux chroniqués, très certainement. Et d'ici là,
jouez bien.